Merci de m'accueillir. Vous savez, c'est un véritable défi que de venir jusqu'à vous. Vaincre ses peurs, je dois d'abord vaincre ma propre peur de vous parler. Il ne faut pas croire que lorsqu'on prend souvent la parole, que c'est facile, c'est toujours un défi. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire un beau discours ou de présenter une œuvre d'art, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de recevoir? Voilà. Seigneur, aide-moi à trouver les mots qui effectivement rejoignent une attente. Alors c'est cette attente, j'espère, que je vais essayer de combler. Comme je le disais à mes paroissiens quand j'étais en paroisse, vous savez, un sermon, si vous avez mal dormi la nuit, ça sert aussi à dormir. Vous en faites pas si vous dormez pendant le sermon. Au moins, c'est toujours ça pris sur l'ennemi, quoi, sur une nuit de sommeil. Pas très bon, alors n'hésitez pas, si jamais, à vous endormir aussi, si je puis. Et sans ronfler trop fort, effectivement. Alors, vaincre ses peurs, c'est clair qu'en arrière-fond, je vais essayer de faire ressortir aussi toute cette dimension d'homo-affectivité, d'homo-amour, de ce que j'appelle aussi d'homo-agapé, pour reprendre un terme biblique, c'est-à-dire, finalement, ce qui est le sommet dans notre relation, c'est cet amour de don. Cet amour qui offre, cet amour qui reçoit, cet amour qui s'oublie pour l'autre, et cet amour qui devient alors la demeure de Dieu. Là où sont amour et vérité, Dieu est présent, connaissait l'hymne. Alors pour parler des peurs, j'ai pensé vous parler d'abord des pensées, parce que souvent on se fait peur, sans qu'il y ait raison d'avoir peur. Cherchez pas, docteur, c'est dans la tête que ça se passe. C'est pas forcément dans le réel. J'aimerais partir d'une parole de l'évangile selon saint Marc du deuxième dimanche de Carême qui m'avait toujours intrigué, où il est dit de manière très courte et ramassée dans cet évangile de Marc, Jésus était au milieu des bêtes sauvages et les anges le servaient. Les bêtes sauvages. Y en nous quelque chose de l'animalité, puisque comme vous savez, quand descend du singe, même s'il y en a qui ne sont encore pas descendus de l'arbre, enfin ça c'est encore une autre affaire, hein, mais il y a quand même en nous quelque chose de la sauvagerie. J'entends des choses qu'on ne maîtrise pas, de l'ordre de la pulsion, de l'impulsion, de l'émotion. Vous savez, j'aimerais bien ne pas me mettre en colère, mais des fois c'est plus fort que moi, puis après je regrette. J'aimerais bien ne pas avoir en moi telle passion, telle pulsion, mais c'est là, alors qu'est-ce que je fais? J'essaye d'abattre ces bêtes sauvages, j'essaye de les chasser de ma vie, d'éliminer de ma personnalité tous ces côtés mal aimés de moi-même. Mais ça me revient tout le temps sous forme d'angoisse, de peur, de colère, de déprime parfois, de désespoir. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Oui, mais on m'a dit qu'il y avait telle bête sauvage, mieux vaut pas qu'elle se réveille. Et si elle est réveillée, il faut vraiment l'abattre et la tuer, mais ce serait se priver quand même d'énergie qui sont en nous. Ce qu'on appelle les passions. Et si on prenait le temps de les apprivoiser, ces passions, ces bêtes sauvages, pour les intégrer à nos personnalités, pour en faire des alliés. Eh bien, vous voyez, Jésus, il est au milieu de tout ça. Et il est là pour nous dire, mais regarde, comme ces bêtes sauvages, moi je les ai apprivoisées. Je les aime, ils sont là, à mon service, pour permettre aux anges, les bonnes pensées aussi, d'animer ma vie. C'est ce que je dis toujours à un jeune qui découvre son homosexualité et qui panique jusqu'à des tentations de suicide, de lui parler de cette animalité, puis de dire « Mais dis-moi ce qui dans ta sensibilité, celle que tu découvres, dis-moi ce qui est richesse. Dis-moi ce qui est richesse. » On va essayer de chercher ensemble dans cette sensibilité. Elle est porteuse, cette sensibilité de richesse au niveau relationnel, lesquelles, au niveau artistique, enfin, on pourrait épeler, chercher ensemble tout ce qu'il y a, au lieu de se dire c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose que j'aimerais pas, c'est quelque chose qu'on dit que c'est mauvais, etc. Intégrer à sa personnalité, ces bêtes d'abord sauvages qui me mordent par le sentiment de culpabilité, chercher à les connaître, à les apprivoiser. C'est ce que Jésus vient faire en nous pour nous aider ensuite à voir comment je vais faire avec toutes ces énergies, comment toutes ces énergies peuvent devenir positives si j'en suis le berger, pour construire ma personnalité. Comment je vais construire ma personnalité avec toutes ces énergies dans la mesure où elles sont comme habitées par l'amour, habitées par ce désir de construire quelque chose de positif. Alors voilà, parce que lorsque ces bêtes ne sont pas apprivoisées, elles font peur. Lorsque mes passions sont refoulées, niées, elles me reviennent de toute façon sous d'autres formes et parfois sous des formes monstrueuses. Elles me font déraper dans des choses que je n'aurais jamais voulu. Elles m'attendent au contour et on ne le sait que trop. Voilà comment la spiritualité va m'aider à apprivoiser tout cela. Vous voyez, la psychologie déniche, met des noms justes, détecte des nœuds affectifs, détecte des problèmes personnels qui parfois handicapent la relation. Et comment la spiritualité, à travers cette présence de Jésus qui m'aime, qui vient au milieu de mes bêtes sauvages, au cœur de ma personnalité, comment il va m'aider à en faire justement des alliés, des énergies positives. Et oui, comme vous l'avez bien compris, les bêtes sauvages, les anges, ne sont pas seulement à l'extérieur, mais sont à l'intérieur de nous. Et ce qui va les détecter, ce sont justement les paroles extérieures, les paroles intérieures. Les paroles extérieures, ça sera peut-être une parole de jugement que je vais recevoir, une parole une attaque, une insulte. Et cette parole va se transformer en pensée. Vous voyez, ça va tourner. Ces pensées dans ma tête, ça va créer un dialogue qui fait que je vais m'identifier à la parole que j'ai entendue. Ou cette parole, elle peut venir aussi de l'intérieur de moi-même. Je me juge. Je ne m'accepte pas. Dieu me juge. Ma vie est foutue. Ma vie est terminée. Ce sont des paroles qui deviennent des pensées. Et ces pensées vont être comme minées par les émotions de peur, d'angoisse, de panique. Et tout ce qui tourne dans ma tête, finalement, ça devient de la pure interprétation de la réalité. Et parfois, je peux me morfondre. Je peux aller jusqu'à vouloir disparaître uniquement parce que je me suis identifié à ces paroles qui ne sont pas le reflet de la réalité, à ces paroles venues de l'extérieur ou de l'intérieur de moi-même. Vous savez, souvent, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas ce qu'on entend, ce n'est pas le réel, ce n'est pas l'événement, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et alors, on peut complètement interpréter et prendre cela pour la réalité. Vous voyez, exemple, le terme homosexualité. Alors, moi, je dis toujours, l'homosexualité n'existe pas. Ça, c'est dans la tête que ça existe. C'est un schéma qui existe. C'est une manière de voir les choses qui existe. Selon l'histoire, une manière qui condamnait. Selon notre histoire d'aujourd'hui, quelque chose qui me condamne en moi-même. Et je me laisse condamner par une interprétation du réel. On ne touche pas le réel. C'est un essai de définir une réalité qui a souvent enfermé des quantités de personnes dans la fausseté, dans quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Car si l'homosexualité n'existe pas, tout comme l'hétérosexualité, ce qui existe, en revanche, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui portent ces pensées, qui se découvre à l'intérieur d'elle-même tout en essayant de mettre des mots. Mais vous sauriez combien les mots sont trompeurs. Et là, je vous cite Sartre. Vous savez, Sartre, Jean-Paul Sartre, dans Les mots, j'ai bien aimé ce qu'il dit. Lui qui a été un personnage préfabriqué par les mots des adultes. Il est d'un milieu bourgeois, bon chic, bon genre, et il essayait d'être ce qu'on disait de lui. Mais finalement, ça n'a pas marché parce qu'à un moment donné, à sa manière, il a pu trouver sa liberté. C'est pourquoi il a tellement réagi violemment contre cette philosophie qui dit d'abord qui est l'homme avant d'écouter l'homme. Donc, vous savez, ce fameux titre, l'existence précède l'essence. Pas approfondir ça, mais je vous cite quand même un petit passage. Donc Sartre, où il décrit une enfance préfabriquée par les mots des adultes. Voilà ce qu'il dit. « Ma vérité, mon caractère et mon nom étaient aux mains des adultes. J'avais appris à me voir par leurs yeux. J'étais un enfant, ce monstre qu'ils fabriquent avec leurs regrets. » Écoutez bien, ce monstre, ces bêtes sauvages, je dirais. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Tout un homme, fait de tous les hommes, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. Donc vous sentez derrière cela, il y a une personnalité éclatée, il y a une personnalité enfermée, il y a une personnalité jugée, si bien qu'il arrive qu'en moi, il y a comme ces deux personnages qui se combattent. Celui qui voudrait être, exister tel qu'il est, et la caricature de qui il est. Et vous savez que ces divisions sont purement diaboliques. Le terme grec « diable », qui signifie « diviser », le diviseur, qui n'est pas forcément le cornu, mais que sont nos pensées construites par des mots, ces dialogues intérieurs construits sur le filtre de nos interprétations. Et il est bon de prendre un passage biblique qui image bien cela en Saint Marc, chapitre 1, depuis le verset 21, c'est, je vous lis quand même, hein. Ils pénétrèrent, donc Jésus et les apôtres, à Capharnaüm, et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Vous voyez, Jésus enseigne avec autorité, c'est-à-dire il enseigne juste, il voit juste, il n'est pas dans l'interprétation. Les autres jugent, mais ils sont dans l'interprétation, et ils enferment les autres dans leur propre pensée, dans leur propre projection et même dans ce qu'ils n'aiment pas en eux-mêmes. Vous savez, des fois peut-être qu'il y a des formes d'homophobie qui sont liées au fait que je n'accepte pas que peut-être en moi aussi il y ait ce genre de tension. Ce serait des fois très étonnant. Hein. Ce serait des fois très étonnant. Et certains discours même d'église, la réalité, les événements ne sont que légion pour confirmer ce que je dis, que derrière certains discours homophobes se cachent des peurs, de grandes peurs, qui font que parfois des personnages dérapent. Alors, et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Vous savez, l'impureté, c'est la division. La pureté, c'est l'unité, devenir un en Christ. Ça, c'est la pureté, l'unité. Qui cria en disant « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaçant en disant « Tais-toi, sors de cet homme. » Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et il sortit de lui. Alors on est en plein dedans, voyez. C'est finalement à travers ce petit texte. Qu'est-ce qu'il en ressort que nous pouvons tirer pour nos vies ? Cet homme, il est divisé. Il est à la fois accusé par un esprit de mensonge. Pourquoi en est-il arrivé là ? On ne sait trop rien, peut-être. Il y a eu à un moment donné ces paroles. Cette personne t'en veut, elle dit du mal de toi, il faut que tu te protèges. Donc, il y a différentes manières de se protéger par tous ces mécanismes de défense décrits par la psychologie moderne. Vous savez, la fuite, le déni, le refoulement, l'agression, etc. etc. C'est mon tout dernier livre qui s'appelle « Le courage d'être soi-même ». où j'essaie de montrer tous ces mécanismes qui handicapent nos relations. Et quand on a en nous comme un esprit mauvais ou des pensées négatives, et des pensées négatives, alors on va se protéger pour que l'entourage ne perçoive pas ce qui m'habite et ce qui me plonge dans la panique. Alors on va faire le déni, on va fuir, on va réagir par l'agression, par le jugement des autres, tellement on est mal avec soi-même. Et ces mécanismes de défense nous protègent, je dirais, pour un temps, pour ne pas souffrir, bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Ces mécanismes engendrent aussi de la souffrance, mais je dirais une souffrance à moindre coût. Parce que pendant ce temps, je laisse tranquille ces pensées qui me dérangent, ces pensées qui m'accusent, ces pensées auxquelles je m'identifie, auxquelles j'identifie toute ma personnalité. Et voyez donc là ce personnage qui est habité par le diviseur, le démon, eh bien ce démon l'accuse, ce démon lui ment, et ce démon lui fait croire qu'il est ce qu'il n'est pas parce qu'il s'est identifié à ce qu'il a entendu. Alors ça peut être bien sûr une interprétation catastrophique pour la personne, et j'en connais, de ce qu'on appelle homosexualité, qui peut aller jusqu'à ses tentations, tentatives de suicide, qui engendre aussi un sentiment de culpabilité qui est vraiment venimeux et qui tétanise. Le sentiment de culpabilité, il y a cette peur panique de se croire abandonné de tout le monde, de se croire exclu, de se croire rejeté. Mais vous comprenez bien, on est toujours dans les pensées. On n'est encore pas dans le réel. On est toujours dans les pensées. Et ce démon-là, ce diable-là, ces pensées-là mentent. Nos pensées, parfois, nous mentent. Nos pensées, quand elles nous manquent, elles nous accusent. Donc on se protège des autres. Et ça peut conduire jusqu'à la maladie mentale. La maladie mentale qui est aussi un mécanisme de défense, mais devenu pathologique et inconscient. Ça veut dire que la réalité m'apparaît tellement insupportable que mon inconscient fabrique une autre réalité. C'est le délire, les hallucinations, où je pense que dans ce réel-là, je suis plus apaisé, je suis comme le maître de ce réel. Mais en réalité, c'est le contraire, parce que le délire me coupe complètement du réel, de mon entourage et des autres. Vous voyez, ce démon-là peut me porter jusqu'à un déni total du réel et de moi-même, et là, on est vraiment dans la maladie mentale. Donc, accusation, sentiment de culpabilité, et là, comment on peut faire pour s'en sortir dans ces situations où on ne fait que se protéger, et on a besoin d'une parole forte. C'est là où la spiritualité vient en aide à la psychologie. Vous voyez, on aurait des fois tendance, on a souvent dérapé avec cela, en inversant. Ah, mais Jésus va guérir, tu verras si tu pries les sacrements, tout ça, ça va te remettre sur pied. Ben non, il y a des situations où on a besoin d'être accompagné psychologiquement pour mettre les mots justes et pour sortir du jugement. J'avais une personne que j'accompagnais assez gravement malade au niveau psychologique, et au bout de quelques temps, elle me dit « Vraiment, Jésus me fait du bien, j'ai balancé tous mes médicaments à la poubelle ». Et je lui ai dit, si tu ne vas pas tout de suite revoir ton médecin, je refuse de te rencontrer la prochaine fois. Alors il y est retourné et son médecin m'a téléphoné en disant, bah, écoutez, je ne vous connais pas, mais c'est la première fois que j'entends un prêtre dire autre chose que ce que j'entends dire de mes patients à travers leur prêtre, qui aurait plutôt tendance justement à dire, mais tu n'as plus besoin de ces médicaments-là, la prière va t'aider, etc. etc. Il ne faut pas mélanger les domaines. La spiritualité n'est pas miraculeuse. Vous savez, en spiritualité, quand on parle de guérison, ce n'est pas comme en médecine. Guérir en médecine, c'est redonner la santé, c'est retrouver un état initial de bien-être. Mais pas dans la spiritualité. La maladie dans la spiritualité, c'est lorsqu'une blessure me rend malade, me replie sur moi-même, me ronge, me jette dans le désespoir. et fait que cette blessure me replie tellement sur moi-même que je n'arrive plus à regarder les autres. Je vais parler que de moi, que de moi, que de moi, que de moi. Il y a tellement de gens comme ça autour de nous. Je ne vais plus être à l'écoute, je ne vais plus pouvoir accueillir l'autre, je ne vais plus pouvoir accueillir la vie, je ne vais plus pouvoir accueillir même Dieu. C'est ça la maladie. La guérison, c'est de pouvoir relever la tête, de pouvoir de nouveau regarder la vie, de l'accueillir, parce que c'est le Seigneur qui est en moi, qui me retourne, et surtout qui vient apaiser ces sentiments de culpabilité qui sont justement au niveau des pensées fausses, par rapport à certaines blessures que je porte. Et ça, c'est important pour ne pas mélanger les deux domaines. Vous voyez, Jésus apparaît à ses apôtres au soir de Pâques avec des blessures. Il n'est pas guéri, Jésus. Ces blessures sont transfigurées. Nos blessures d'enfance, nos blessures profondes, il ne faut pas croire qu'on en sera guéri. C'est pas vrai. Ceux qui vous disent qu'on va en guérir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais la guérison, celle de Jésus, fait que ces blessures vont devenir des chemins de compassion vers les autres, des chemins de compréhension, des chemins d'accueil. Il faut, comme on dit souvent, avoir vécu soi-même telle ou telle réalité pour comprendre celle des autres. Sinon, on va juger. Où on va arriver, vous savez, avec notre doctrine. Voilà. Moi, j'ai la vérité. Voilà ce que dit l'Église. Voilà ce qu'il dit. Voilà, tu dois suivre ce que dit la doctrine. Eh bien, ça soit que tu n'y comprends rien du tout. Parce que ce n'est pas ça la doctrine de Jésus. Bon Samaritain, où l'on voit combien Jésus est bouleversé. Bouleversé. Parce que derrière le bon Samaritain, il y a Jésus, devant le blessé, est bouleversé. Il va venir à son aide. Il ne va pas se poser la question, mais enfin, s'il en est arrivé là, peut-être était-ce lui le voleur, on n'en sait rien. Il n'en sait rien. Et si c'était lui qui avait dévalisé des voyageurs? Non, il ne pose même pas la question. Il le prend sur sa monture et l'amène dans l'auberge. Voyez, pour en ramasser d'autres, il faut avoir été soi-même ramassé sur le bord du chemin de la vie. Et si je vous dis ça, c'est peut-être entre les lignes aussi mon propre témoignage. Pour en ramasser d'autres, il faut avoir été soi-même ramassé, avoir fait l'expérience de ce regard de tendresse, de celui qui cherche ton bien, de celui qui veut te conduire au Seigneur de toutes les miséricordes. Voyez, sinon on parle dans le vide. En psychologie, on appelle ça l'empathie. En spiritualité, on parlera de compassion. Si je ne suis pas capable de compassion, il ne faut pas aller faire des leçons aux autres. Voilà. Donc cet homme qui est habité, qui est déchiré, divisé en lui-même entre ce qu'il aurait été être et ce qu'il n'est pas, et ça lui cause conflit, on a besoin d'une parole divine, la spiritualité. Et Jésus va intervenir par cette parole, qui est aussi une pensée, qui va rentrer dans l'homme, mais cette pensée est le pur reflet du réel. Sors de cet homme, esprit impur, et il fut secoué de convulsions, mais ce n'est plus l'esprit impur maintenant qui est en lui, c'est Jésus lui-même. Il y a cette parole que j'aime beaucoup, 1 Corinthiens 2,16, Saint Paul, lorsqu'il dit « Nous avons en nous » l'intelligence du Christ, traduit aussi par la pensée du Christ, la parole du Christ, qui est beaucoup plus forte que ces démons qui nous déchirent. Lorsque nous avons en nous la parole de Jésus, dont le reflet se trouve dans les Écritures, alors oui, à partir de là, on va prendre le temps de se dire comment je vais faire avec ces bêtes sauvages qui sont en moi. C'est là que tout commence. Mais si encore, d'autant plus, je me dis que le Seigneur vient pour me juger, mais c'est foutu. Ce n'est que le reflet des jugements des hommes. C'est que le reflet des jugements des hommes. Vous savez, ce que nous raconte la Bible, par exemple, en Genèse 3, après que l'homme et la femme se furent brisés d'avec Dieu. D'ailleurs, Genèse 3, c'est une parabole de ce que nous vivons tous les jours. pour nous aider à comprendre pourquoi la vie est un mystère. Pourquoi je suis un mystère à mon propre regard. Pourquoi je suis devenu tel alors que si j'avais pu, j'aurais choisi autre chose. C'est tout un mystère qui me dépasse. Pourquoi ? Pourquoi ? Et dans cette parabole, dans cette histoire, Dieu nous dit, mais fais-moi confiance, attends. Cherche pas à tout comprendre. Fais-moi confiance petit à petit. Je t'aiderai à saisir pourquoi. Et l'homme et la femme sont impatients, se glisse dans leur tête une idée tordue qu'on appelle le serpent, qui réussit à leur faire croire que Dieu se poste en adversaire. Si Dieu ne veut pas leur donner les réponses qu'ils attendent, c'est parce qu'il veut les dominer. C'est ça l'idée tordue. Il veut les dominer. C'est comme quand on se dit « Mais pourquoi je suis comme ci, je suis comme ça, puis pas autrement ?» Puis tout de suite, on se révolte, puis on cherche à bâtir son chemin tel qu'on le pense dans sa révolte. C'est la même chose. Attendons, Dieu a un projet pour chacun, pour chacune de nous. Prenons le temps. Pourquoi réagir toujours impulsivement par la révolte ou l'agressivité? Attendons. Vous voyez, l'homme et la femme, dans cette histoire-là, n'ont pas attendu. Et ils ont décidé eux-mêmes de ce qui était juste, pas juste, de ce qui était bien, de ce qui était mal, en faisant main basse sur le fruit, ce fameux fruit. Vous voyez, le geste est là. Le réel, il faut que j'apprenne à le découvrir. Et là, c'est le contraire. On fait main basse sur le réel, sur le fruit, et on le bouffe. Voyez, quand on interprète ou on donne une définition à des mystères qui nous dépassent, c'est qu'on a bouffé le réel. Et le mystère n'est plus un mystère. Il est à la hauteur de mon interprétation, et là, on s'est cassé. De nouveau, si je prends homosexualité, si j'essaye de définir... Ou si j'essaye, comme personne hétéro ou homo, bref, à me définir et à tracer mon chemin, je peux me tromper complètement. C'est aussi une manière de faire main basse sur une réalité qui me dépasse, sur une réalité que je ne maîtrise pas. Comprenez, ça c'est important. Donc la confiance qui enlève la peur, c'est de se dire, bah, cette certitude d'abord, Seigneur, tu n'es pas venu pour me juger. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment tu vas m'aider à trouver mon chemin? Au point de départ, c'est ça qui est important. Puis voyez, après avoir fait main basse sur le fruit, c'est la naissance de la peur. La peur peut s'expliquer psychologiquement, mais le fin mot, la cause est spirituelle, c'est qu'il y a en nous quelque chose qui est cassé avec Dieu. Et la confiance est cassée. Et lorsque Dieu, ce matin-là, part à la recherche de l'homme dans le jardin de la Genèse et qu'il crie « Adam, où es-tu ?» Mais quel était ce cri? C'était le cri d'un père affolé parce que son enfant était dans la détresse. Ce n'était pas le cri d'un juge. Mais interprétation du réel, c'est foutu, hein? Dieu vient pour nous punir. Voilà, on est dans l'interprétation. Et l'homme de répondre « Adam, où es-tu ? J'ai eu peur et je me suis caché. » Or, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Mais c'est les premiers mécanismes de défense contre la peur, contre une peur plus grande que la peur qui est déjà en moi. Elle est dans la Bible, cette peur-là. Ces mécanismes de défense, symboliquement représentés par, vous savez, la feuille qui cache la nudité, la feuille de figuier ou les peaux de bête que Dieu cousit pour les protéger. C'est quoi la nudité dans la Bible? L'homme et la femme étaient nus, ils n'avaient pas peur l'un devant l'autre, dit la Bible. Puis après, hop, il faut se cacher. La nudité, c'est la vulnérabilité. C'est l'homme tel qu'il est, avec ses passions. Mais il n'a pas peur de l'autre, parce que l'autre ne veut pas lui faire du mal. Lorsqu'on est dans la rupture, dans la peur, dans l'angoisse, il faut se protéger des autres, du jugement de Dieu, de la condamnation. Comment retrouver cette nudité? La pureté, c'est la nudité. C'est l'homme qui s'accueille tel qu'il est, avec ses contraires en lui-même. C'est l'homme qui prend soin de sa fragilité. Voyez, Dieu prend soin de nous. Je parlais dernièrement à des jeunes du don de crainte qui se prépare à la confirmation. Et je leur disais, vous savez, le don de crainte, c'est de prendre soin de ce qu'il y a de plus fragile dans l'autre pour ne pas le casser. Et souvent, on casse. Et ce qu'il y a de plus fragile en moi et en vous, c'est Dieu. Regardez comment un papa reçoit un nouveau-né entre ses bras. Il ne sait pas que faire avec, ça va dans tous les sens. Moi, quand je fais les baptêmes, quand on me présente un nouveau-né, je dis toujours non, moi, je ne sais pas comment faire. Donc j'ai l'impression de le casser. Non, c'est bon. J'ai un peu de problème moi, avec les bébés, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon, il me semble que j'ai toujours l'impression que je vais casser quelque chose. Mais regardez un papa comment. Voilà, ben Dieu, il est comme ce nouveau-né entre nos bras. Comment pourrait-il nous faire du mal? Imaginez, comment pourrait-il nous faire du mal? Alors voilà, je synthétise une première fois ces pensées que sont les bons anges qui correspondent au réel ou alors ces bêtes sauvages qui me font peur, injectées aussi par les paroles des autres, injectées aussi depuis ma plus petite enfance. Je me suis bâti, on devient parole, on se bâtit sur des mots. Voyez, le Seigneur nous bâtit sur du réel. Il vient nous aider à voir clair avec tout cela. Mais ces mots aussi qui peuvent nous faire, dans leur interprétation, hein, qui sont le reflet de l'interprétation, ils peuvent aussi nous faire chuter. Alors parfois on se pose la question, oui mais il y a... On ne peut pas nier le péché, il y a le péché qui est là. Mais enfin, il y a aussi cette fameuse notion du péché qui nous a aussi conditionnés. Cette notion du péché, telle qu'elle a été transmise bien souvent, ça a été des mots qui nous ont détruits. Comment concevoir ce Dieu qui nous aime, puis finalement le mal, le péché? Alors, vous savez, moi, je ne parle jamais, ça fait longtemps que je ne parle plus, de péché avec les gens, parce que c'est trop piégé. Souvent les gens disent, ouais, mais c'est l'Église qui a inventé le péché, elle a culpabilisé les gens, moi depuis que j'ai quitté l'Église, il n'y avait plus du tout cette histoire de péché. Je dis, ouais, mais si on parlait de la faute, là on est tous d'accord. Le péché c'est un mot trop piégé. La faute, tout le monde est conscient qu'il en commet. Et que lorsqu'on fait une faute dans la société, on ne vous donne aucun pardon. Et plus on est dans une société aujourd'hui qui vous dit « soyez libre », vous connaissez ça, « faites ce que vous sentez, faites ce que vous voulez », mais on vous attend avec le bâton à l'autre bout de la rue. Donc c'est une société qui est complètement incohérente, c'est une société qui fabrique de la culpabilité et qui condamne continuellement. L'Église, c'est quoi ? La faute, le péché, finalement, c'est la même chose. Mais dans la faute, je suis seul avec moi-même. Quand on parle de péché, je vois Jésus qui est là, qui vient à mon secours. La différence est de taille. Quand je me regarde le matin dans le miroir, après avoir eu une nuit merdique, ou avoir vécu avec des gens qui m'ont cassé les pieds du matin au soir, puis qu'il faut encore se lever le matin, puis que je me regarde dans le miroir, j'ai le juge le plus terrible que je rencontre chaque matin. Vous remplacez le miroir par le regard, la présence de Jésus. Vous avez celui qui m'aime comme personne ne peut m'aimer, et notamment lorsque je suis dans le gouffre. C'est toute la différence. La faute, c'est le miroir. Je fais quoi avec? Le péché, c'est cette même faute. Mais il y a un regard qui m'appelle, qui m'attend. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que tes pensées? M'aimes-tu plus que ton sentiment de culpabilité? Et même, m'aimes-tu plus que cette impression que tu as que je suis venu pour te condamner? C'est ça la foi. Oui, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Alors, si telle est ta réponse, Je veux que tu sois mon pasteur, mon berger, mon serviteur. Vous voyez, c'est peut-être la réponse à donner au Seigneur après tout ce que nous, vous avez vécu et qui font qu'aujourd'hui, nous, je, vous êtes ce que vous êtes. C'est cette parole que le Seigneur vous adresse, même du plus. Et si oui, eh bien, tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu, ça va devenir une mission. Ça, c'est important ce que je vous dis là. Moi, je dis souvent à mes séminaristes, vos charismes naissent à l'intérieur de vos blessures. Vos charismes naissent à l'intérieur de vos blessures à partir du moment où vous laissez le Seigneur les visiter. Et ça va devenir une mission. Si vous ne voyez pas ça comme ça, vous allez vous engager comme des gens qui savent, qui vont prêcher prêcha, qui vont faire de la morale aux autres. Là, c'est une fameuse vérité dont on parle. C'est quoi la vérité? Ce n'est pas une doctrine, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Et je leur dis, si vous ne donnez pas le Christ, parce que d'abord il vous habite, parce que d'abord vous êtes des êtres blessés, il ne faut pas poursuivre. Il ne faut pas poursuivre. Vous savez, Matthieu 25, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter, j'étais malade. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Souvent, quand on lit ce texte, on le lit de manière tellement moralisatrice. Oui, mais enfin, pour rencontrer Jésus, il faut vêtir le pauvre, il faut aller visiter le prisonnier. Oui, mais d'abord, qui est ce pauvre? Mais c'est moi. C'est moi qui suis prisonnier de mes pensées, de mes interprétations, de mes angoisses, de mon péché. C'est moi qui a une telle faim de reconnaissance. C'est moi qui ai une telle soif d'être aimé. C'est moi qui suis souvent malade de ce que j'entends autour de moi ou en moi-même, qui suis divisé en moi-même, c'est moi. Et voyez, si je ne vais pas jusqu'au bout, jusqu'au fond de ces blessures, de ce zoo aux bêtes sauvages, je rencontrerai le Christ, oui, mais un Christ bien portant. Bon chic, bon genre, qui nous dit de belles choses, mais je ne rencontrerai pas le Christ crucifié, le Christ dans le miroir, le Christ qui me dit, regarde, tout ce qui t'arrive, je les porte, c'est sur moi. Tu peux me regarder, parce que tu vois, je te ressemble tellement, tellement, tellement. Je suis comme toi. J'ai les mêmes peurs que toi parce que j'ai tout pris sur moi. Il n'y a aucun centimètre carré de ta personnalité que je ne connais pas parce que je les vis. Parce que je les vis. Et c'est ça, il faut aller jusque-là. Sinon, je rencontre un Jésus à moitié. Un Jésus bon chic, bon genre. Un Jésus qui prêche la vérité, mais non pas un Christ crucifié. Vous voyez, aujourd'hui, comme on a peur, même dans l'Église, de reconnaître toutes les réalités des abus sexuels. On a peur de parler d'homosexualité, on a peur de cette différence. Pourquoi? Parce qu'on ampute le Christ d'une partie de qui il est, d'une partie de sa réalité. On ne voudrait pas que le Christ soit nu, et il est nu. On ne voudrait pas que le Christ soit lacéré, il est lacéré. Le Christ est dans toutes ses réalités pour vous dire et dire à chacun, je te précède, je suis là, donc tu peux t'accueillir parce que je suis là, au milieu des bêtes sauvages. Tu peux t'aimer parce que je t'aime. Voyez, le péché, Jésus l'a payé, c'est saint Paul qui le dit, il a payé la dette. Le péché, ce n'est pas grave, ce n'est pas important, mais ce qui est grave, c'est de demeurer et de rester dans une détresse provoquée par le péché. Le péché, c'est pardonné, mais ce qu'il provoque, c'est affreux. Comprenez la différence? Le péché, c'est... Il faut juste vouloir être pardonné, c'est juste ça. Un mot, un geste, un regret. Dieu est attiré non pas vers le péché c'est négatif, mais il est attiré vers la détresse de son enfant, c'est ça. Parce que Dieu ne veut pas que son enfant soit dans la détresse. que cette détresse soit causée par le péché, des blessures, une maladie, ou que sais-je encore. Dieu est attiré vers notre détresse. Puis ensuite, il nous dit, mais comment vas-tu? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vois que tu souffres. On va essayer de chercher pourquoi. Alors, ça peut être une blessure, ça peut être le péché aussi. Mais ce qui est premier, c'est la détresse. Moi, quand je rencontre les gens, je leur dis, mais parlez-moi de votre détresse. Puis on essaye de chercher ensemble la cause pour trouver ensemble le remède. Et ça, c'est vraiment très important. Comment Jésus nous juge? Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est ça le jugement. Quand j'aurai été élevé de terre sur la croix, on l'a bien compris, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais c'est grandiose. Au fond de sa détresse, au fond de ma détresse, Jésus va chercher en moi tout ce qu'il peut attirer vers lui. C'est ça le jugement. Le jugement, c'est un Dieu qui, à travers Jésus sur la croix, nous dit « Je t'aime, je vois en toi la soif de Dieu, je vois en toi ton humanité, je t'aime, est-ce que tu veux venir vers moi ?» Je peux dire oui, je peux dire non. Le jugement est un auto-jugement. C'est devant l'immensité de l'amour que Dieu a pour moi. Cet amour sera tellement lumineux qu'il va m'éclairer jusqu'au fond de mes blessures et de mon péché. Et je vais dire oui ou je vais dire non. Vous savez, en terre chrétienne, le pire, mais c'est terrible parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, le pire, c'est pas d'aimer. C'est pas d'aimer. La religion chrétienne, c'est aimez-vous les uns les autres, c'est pas vrai. Non, ça commence pas comme ça. Comme le Père m'a aimé, moi, je t'aime. Ça commence par accepter d'être aimé. C'est beaucoup plus dur, parce que quand on aime, on maîtrise, on tient le couteau par le manche. Accepter d'être aimé, jusque dans ce que je n'aime pas en moi, jusque dans mes blessures, mon péché, ma souffrance, ça c'est vache. Ça demande une dose d'humilité inouïe. Accepter d'être aimé alors que moi je ne peux pas rendre à l'appareil. Et parce qu'on a été éduqué comme ça. Je te donne, tu me donnes. Tandis que là, je ne peux rien rendre. Vous vous souvenez de cette parabole le gars qui devait 60 000 pièces d'or à son roi. Vous vous souvenez, Matthieu 25 aussi. Puis le roi lui a dit, non, cette dette, c'est impossible. Je te donne tout. Je te laisse. Je te pardonne. Voilà. L'ardoise, elle est effacée. Alors donc, on est libre pour accepter d'être aimé. Pour accepter d'être aimé. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut méditer parce que on nous a éduqués dans le sens contraire, tu dois prouver pour être aimé, tu dois être au top pour être accepté, il faut toujours prouver pour être aimé. Alors on a projeté ça sur Dieu, il faut faire le bien pour être sauvé, sinon je vais aller en enfer, il faut, oui, mais c'est pas, il ne faut pas commencer par là, sinon l'évangile ne sert à rien, on tue la croix du Christ, dit Saint Paul, vous revenez à la loi, vous revenez en arrière, vous vous appuyez de nouveau sur vos réussites. Vous tuez la croix du Christ. C'est dans ce sens-là. Accepter d'être aimé jusque dans ce qui me fait le plus peur, ce qui me fait le plus honte, ce qui me trouble le plus. Nous plantons la croix du Christ en plein cœur. Comprenez la différence. Et ça, c'est important. Alors, je vous cite encore un autre texte que j'aime beaucoup. C'est Marc 10. Depuis le verset 46, vous savez, c'est Bartimée. J'aime bien citer ce texte. Ouais, il faudra me dire juste le temps que j'ai encore. Hein. Puis il est quelle heure, là? Ok, ça va, vous tenez le coup, tenez la rampe. Bon. Bartimée, vous savez, ce petit Bartimée que j'aime beaucoup. Moi, j'aime toujours les petits, je ne sais pas pourquoi, dans l'évangile. Zachée, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que je suis dans un petit pays. Voilà, je vous ai dit quelle... Ouais. 46, oui. Alors, ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer le silence, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle !» Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole « Que veux-tu que je fasse ?» L'aveugle lui répondit « Rabboni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue. Eh bien, on a cet homme, finalement, qui est malade. La vraie maladie, c'est ça. Il est sur le bord du chemin. Il est enfermé dans son manteau, les mécanismes de défense. Il se protège, vous voyez. Il n'est pas lui-même. Puis Jésus passe par là. Puis à un moment donné, il sent que Jésus vient pour lui faire du bien. Et là, il se met à hurler. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» En trois fois. Vous voyez, il faut apprendre à crier vers le Seigneur. Ça, c'est une dimension. On essaie de le faire taire. Comme on dirait, excusez-moi, mais en tous les cas, les aumônes, non, ils sont, voilà, ils sont hors de l'Église. Mais s'ils sont dans l'Église, on veut bien les accepter. Mais enfin, il y a toujours cette image tordue, mais jusqu'à la ceinture. Après, non, 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 après c'est fermeture, pas d'aventure. Mais moi, ça m'a toujours un petit peu agacé, parce qu'on a une vision très dualiste de l'homme. Et là, quand on parle de la sexualité, on se casse la gueule. Parce que l'homme, c'est pas ça. L'homme, c'est pas ça. La vraie question, c'est, voilà, tu es une personne comme tout le monde, comment tu veux aimer? Comment tu construis ta vie? Est-ce que ta vie, la manière dont elle est construite aujourd'hui, est-ce que c'est cela qui te conduit vraiment au bonheur? Ou c'est cela qui te construit? Oui, c'est ça la vraie question. On ne va pas tout mélanger. L'homme est un, n'a pas à savoir ce qui se passe dans tous les détails. C'est comment tu construis ta vie. Est-ce que la relation que tu as aujourd'hui, elle t'aide à vivre? Est-ce que c'est cela? Ensuite, on est tous en chemin. On est tous en chemin. Le pape, il dira, vous savez, jugez pas, accompagnez, 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 trois fois. Moi, je compare souvent cela à nos belles montagnes de chez nous, 4500 mètres, 4000, 5000 mètres. On est tous attirés vers un sommet. C'est magnifique, un sommet. Moi, j'ai fait qu'un 3000, je n'ai jamais réussi à faire un 4000. Bref, il y en a d'autres qui sont à 1500 mètres, à 500 mètres. Mais l'essentiel, c'est d'être tendu vers le sommet, qui demeure toujours mystérieux. Ça veut dire que tout ce que nous vivons, qui que nous soyons, c'est jamais satisfaisant, puisqu'on n'est jamais arrivé au but. Qu'on soit marié, pas marié, homo, prêtre, On peut prendre tous les cas de figure. Qui peut prétendre avoir atteint le sommet du bonheur? Et puis sur ce chemin de montagne, il y a des petits panneaux, vous voyez, qui nous disent 30 minutes par ici, là tu te casses la gueule si tu vas, plutôt prendre tel chemin. C'est un petit peu indiqué. Puis on est sur le chemin. Ces petits panneaux, on va dire, c'est la doctrine de l'Église, vous voyez. Elle nous donne des indications pour aller vers l'idéal. Mais le chemin, c'est le réel. Je suis à 500 mètres ou à 1500 mètres. J'ai besoin d'un guide. C'est dans ce sens-là que le pape dit accompagner. Alors sur ce chemin, comment tu te sens à 500 mètres? Dis, t'as envie d'aller plus loin? T'as envie de continuer à gravir cette montagne? Oui, moi je vais t'aider. Allez, on y va. C'est pas ce qui nous attend, mais on y va. Puis à un moment donné, dans la montagne, au-dessus de 3000 mètres, il n'y a plus de panneaux parce qu'il n'y a plus de chemin. Donc là, il faut aller au pif, il faut aller selon l'intuition. Il faut demander à l'Esprit-Saint, puis à partir de là, comment? On ne peut pas tout coder. C'est là que le pape dit, j'aime beaucoup quand il dit, il faut que les prêtres, dans certaines situations, demandent au Seigneur l'Esprit-Saint pour aider la personne à trouver le meilleur chemin pour elle. Pourquoi? Parce que, au-delà de la doctrine, il y a l'homme. Ce que dit le pape François, puis ce que disait déjà saint Thomas d'Aquin, Hein. C'est important de connaître les généralités d'Aurani, d'aller au sommet de la montagne, d'essayer de le décrire un petit peu. Mais plus on se rapproche des situations singulières, plus il y a d'exceptions aux principes généraux. C'est intéressant. Donc à partir de là, on ne peut rejoindre que des situations particulières, de les aider à comprendre si ce qu'elles vivent, c'est vraiment l'amour, si c'est... Vous voyez, il faut cheminer. La vérité dans l'Évangile, c'est Jésus qui vient s'asseoir sur la margelle du puits de la Samaritaine pour se faire mendiant. Donne-moi à boire. Ça, moi, ça m'a toujours impressionné. Je dis toujours aux séminaristes, aux jeunes, là, c'est la clé de la pastorale. Se faire mendiant devant celui qui a des difficultés. Alors ça, waouh, moi, ça m'impressionne. J'ai besoin de toi. Ah bon, mais c'est moi qui ai besoin de toi. Donne-moi à boire. Dis-moi qui tu es. Va chercher au fond de toi ce que tu vis. Puis moi, je vais te faire sentir qu'il y a quelque chose encore de plus grand au fond de toi. Une relation nouvelle avec Dieu. C'est ça l'eau vive. Je vais te faire entrer dans une relation de confiance avec Dieu qui élimine la peur. Pour moi, Romains 8, 13, 17, j'aimerais qu'on l'inscrive sur ma pierre tombale. Mais comme c'est un peu long, ça sera un peu cher. Je ferais que citer juste le verset, puis les gens iront voir. Enfin, c'est ça, vous voyez, je traduis un petit peu à ma manière. « Vous n'avez pas reçu, dit saint Paul, Romains 8, 13, 17, un esprit qui vous rend esclave de la peur. » La peur relative à quoi? À la loi. On peut continuer au regard des autres, à ta propre perception de toi-même. « Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. » C'est pas rien, un fils. Et dans cet esprit, l'esprit c'est la relation, tu peux regarder Dieu droit dans les yeux et lui dire « Abba, Père ». Voilà. Ceux qui n'ont jamais fait de théologie, on va faire 30 secondes de théologie. Dans la théologie, l'homme c'est qui? C'est un enfant de Dieu, quel qu'il soit. Quelle que soit sa religion, sa culture et tout le reste. Voilà, ça, c'est la définition théologique de l'homme. La morale chrétienne, c'est quoi? C'est une morale du dialogue. C'est un dialogue. Tu peux regarder Dieu droit dans les yeux en l'appelant Abba, Père. Et on va chercher ensemble ce que tu as réellement besoin, éclairé par l'Écriture et la doctrine de l'Église. Mais c'est un éclairage, ce n'est pas une imposition. C'est un éclairage et au bout du compte, voilà, toi, tu vas choisir ce qu'il y a de mieux pour toi. Voilà, à partir de là, on peut vraiment trouver autre chose. Vous savez, je vous lis juste, après je rentre encore un dernier texte parce qu'il faut finir. Hein. Ce que dit Thérèse, oui, Thérèse, elle prend une image que j'aime beaucoup. Elle dit, il y a un chasseur qui va chasser le lièvre dans la forêt, et puis il voit un lièvre blanc, c'est rare, alors là il se réjouit, puis il ne veut pas le rater, alors il envoie les chiens. Et le lièvre blanc, à un moment donné, il est tellement affolé par ses chiens qu'il fait volte-face, il court en direction du chasseur, il va se jeter dans ses bras. Et le chasseur est tellement ému qu'il va apprivoiser le petit lièvre blanc. Ben oui, dans cette petite image de Thérèse, il y a la culpabilité. Les chiens, c'est la culpabilité, c'est le sentiment de culpabilité qui me poursuit, moi le lièvre blanc. Oh, je peux courir toute ma vie devant les chiens. Ou alors je peux faire volte-face et courir vers celui que je prenais pour un chasseur, mais qui est en fait mon père, ce Dieu qui m'aime et je peux me jeter dans ses bras. Or c'est cela qu'il faut faire. Et vous sentez que tout ce que je vous dis, finalement, c'est de l'ordre du combat. C'est jamais acquis. Vous voyez, je disais tout à l'heure, on a été abusé, il y a eu tellement de blessures d'enfants, on n'en sort jamais. Il ne faut pas croire qu'on va en guérir. Psychologiquement, on va trouver un apaisement dans la confiance. Dans la confiance. L'apaisement. Mais ces blessures seront une mission. Ça sera une mission. Ça deviendra un charisme. Quelles que soient ces blessures. Mais c'est de l'ordre du combat. Il faut se battre contre la tentation du désespoir. Il faut se battre contre la tentation d'être méprisé et rejeté de Dieu. Il faut se battre contre tous nos démons intérieurs. il faut se battre contre ce pare-brise d'une voiture, vous savez, qui est tout blanc en hiver de sel et qui nous fait voir le décor tout en gris. Il faut allumer les essuie-glaces, la prière, les sacrements, tout ce qui nous aide. C'est un combat. La vie est un combat pour que petit à petit Dieu prenne place en nous. Et en conclusion, pour vous parler de ce combat, je vous citerai ce combat de Jacob, vous savez, que vous trouvez en... Ça, je vous invite à le méditer. Genèse 32, 23, 32. Parce que Jacob, c'est un sacré gaillard, un roublard. Alors, si on lit bien les textes de la Genèse, Jacob, c'est plutôt l'enfant dans les jupes de sa mère, Sarah qui commence tout. Tandis qu'Ésaü, c'est le viril. D'ailleurs, c'est étonnant. L'un est poilu, l'autre non poilu, hein, dit la Bible. Ça veut dire peut-être qu'on peut s'y retrouver. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Jacob, toujours dans l'Égypte de sa mère, le petit timide, et Ésaü tout le temps dans les forêts en train de chasser. Voilà. Et puis finalement, c'est tout sa mère qui commande. C'est elle qui va demander à Jacob de tromper Isaac, son père, pour recevoir le droit d'aînesse. C'est une famille, vous savez, bon chic, bon genre à l'extérieur, mais avec plein de non-dits. Vous connaissez tous ces secrets de famille. Il ne faut surtout pas que ça se sente, il ne faut surtout pas que ça se sache, que ça se voit. Ces secrets de famille où on n'a jamais le courage de parler. Eh bien, Jacob, Ésaü, Sarah, Isaac, c'est tout à fait ça. Et quand Ésaü sait que Jacob l'a trompé, ils veulent tuer son frère. Ben, c'est vraiment le gars, vous savez, bien musclé, enfin un peu sauvage comme ça sur les bords, pas du tout apprivoisé, tandis que Jacob, voilà. Alors vous savez, quand on est fin, des fois dans une famille, il y a un peu les rustres comme ça, puis il y a les fins. Chacun a ses mécanismes de défense. Hein. Les uns, c'est la violence, l'autre, c'est la manipulation affective, la séduction, on cache. Et puis on attend, vous savez, comme le serpent, quand l'autre est faible, tac. Mais là, il n'y a pas moyen de le piquer, vu que sa mère envoie Jacob se réfugier chez son frère, le tonton, Laban, à qui Jacob va toujours dire oui-oui, comme il a dit oui-oui à sa maman. Vous savez, des gens, ils ont toujours dit oui-oui. Mais ils sont tellement écrasés, il y a tellement de peur et d'angoisse que s'ils disent toujours oui-oui, un jour, ils vont se suicider, quoi. Et puis le texte, c'est très beau. Moi, j'aime bien faire une analyse psychologique des textes. Jacob se révolte contre son oncle Laban. Il lui pique une quantité de ses troupeaux parce qu'il sent qu'il faut qu'il revienne à la maison. Dieu lui dit, retourne au pays de ton père. À un moment donné, il faut retourner à nos racines. Il faut retourner dans ce pays qui a causé mon tourment. Tôt ou tard, on est appelé un jour à revenir en arrière pour faire la vérité, pour laisser la lumière éclater. Et Jacob revient comme un homme puissant, riche, il veut en imposer à son frère Ésaü pour se faire accepter. Et ça ne va pas se passer comme ça, puisqu'on vient dire à Jacob, fais attention Ésaü, à lever toute une armée pour te tuer. Puis on arrive à cette fameuse nuit, vous connaissez certainement ce fameux passage du Yabok, vous savez, ce petit pour passer dans le pays de ses pères. Et là, Jacob a peur. Parce que Jacob revient à la maison tout blindé de mécanismes de défense, les richesses, la puissance, la manipulation affective. Tandis qu'Ésaü, il est toujours dans la violence. Chacun se défend comme il peut. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un grand combat cette nuit-là. Et ça, je vous le lis pour vous donner un bref commentaire. Cette nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes et ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le torrent du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent. Et Jacob resta seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, lâche-moi car l'aurore est levée. Mais Jacob répondit, je ne te lâcherai point tant que tu m'es béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Jacob répondit-il. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob mais Israël car tu as été fort contre Dieu, tu as été fort de Dieu. et tu l'as remporté. Jacob fit cette demande, « Révèle-moi ton nom, je te prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Très beau passage qui est vraiment à méditer pour le comprendre. Qui est cet homme qui se bat avec lui? Il y a plusieurs réponses à cet homme-là. Quelqu'un met la main sur Jacob. Cet homme, c'est d'abord mon propre passé, qui me rattrape, qui me remonte à la conscience. Et on se bat souvent avec son pensée et ses propres peurs et ses colères ravalées et ses propres déceptions. Il se heurte contre ses paroles empoisonnées dont le venin coule encore dans son sang. Tu es un minable, t'arriveras à rien, t'es qu'une femmelette, tu n'es pas viril, tu n'es pas bosseur, etc., etc. En tous les cas, tu ne fais pas l'admiration de ton père, tu ne fais pas l'admiration de ta famille, tandis qu'Ésaü, lui, regarde tout ce qu'il rapporte à la maison. Alors la personnalité se rebiffe, ne s'avouant pas vaincue pour autant, elle se fabrique ses âmes subtiles et sournoises, la manipulation, la séduction, la ruse, la fourberie, la vengeance. Mais ce quelqu'un d'autre, plus mystérieux encore, s'immisce entre les deux personnages et Jacob le dévoile, c'est Dieu lui-même. Au milieu des bêtes sauvages, on y revient. Ce corps à corps avec Dieu est unique dans la Bible. Il souligne à la fois le combat de l'homme avec lui-même et de l'homme avec Dieu qui lui fait face. Et voilà qu'au plus fort du combat, les corps lâchent prise. Dieu frappe Jacob à la hanche, celle-ci se démet. La hanche, c'est l'endroit solide où l'homme s'appuie. Et quand la hanche est brisée, il ne peut tomber que par terre ou que dans les bras de Dieu. Peut-être que Dieu cherche à nous briser pour que nous tombions en lui, pour que nous puissions construire notre histoire avec lui. Dieu veut briser nos mécanismes de défense, tout ce que je vous ai dit. Mais il ne peut pas les briser sans briser quelque chose qui est en nous, sans briser notre cœur. Comme Jésus a le cœur brisé sur la croix, pour que puisse passer l'Esprit du Père, pour que nous puissions nous construire ou nous reconstruire comme fils, et non plus comme esclaves de nos peurs, comme esclaves de nos pensées, comme esclaves de nos interprétations, comme l'esclave des paroles des autres. La parole divine pénètre la blessure. Elle se pose sur Jacob, le roublard, le peureux, l'efféminé, le faible, tous ces mots entendus. Le mot divin fait naître en lui sa véritable personnalité. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Israël qui signifie le fort de Dieu. Il y a en nous quelque chose de fort, quelque chose de divin, sur quoi on peut démarrer, redémarrer. Il y a en nous quelque chose de fort. Ce qui faisait dire à saint Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je peux tout en celui qui me fortifie. Vous comprenez pourquoi la force se trouve dans nos blessures? Parce que la faiblesse, c'est l'homme qui accepte de craquer, de faire craquer ses blindages, de ne plus se bâtir sur du mensonge, mais de se laisser rejoindre et toucher par Dieu, de tomber en Dieu. C'est ça la faiblesse. Mais si au fond de la faiblesse, je ne trouve que moi-même, ben c'est catastrophique. Parce que dans la faiblesse, je retrouve Jésus sur la croix, plus faible que moi. Et je peux laisser mûrir et grandir en nous ce fort de Dieu que je suis, qui m'habite, et qui va alors m'éclairer et m'aider à trouver mon chemin. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, je t'aime, tu sais tout. Alors j'ai besoin de toi pour le monde. C'est cette parole qui sera la fin que j'aimerais vous dire aussi de la part du Seigneur. Le Seigneur a besoin de vous pour le monde aujourd'hui. Il a besoin de ce qui est blessé en vous comme en moi. Il a besoin de votre oui. Il a besoin qu'on cesse de toujours se regarder soi-même et tourner en rond autour des mêmes ou du même sujet pour aller de l'avant. Il a tellement besoin que nous disions oui à son amour, à sa visite au fond de toute détresse, de la mienne, de la vôtre, Il faut que nous nous laissions ramasser. Si nous voulons ramasser d'autres, il faut que la guérison soit la mission. Il faut que la mission fleurisse, fleurisse de charisme nouveau. Le monde a besoin de vous dans l'Église. Parce que dans l'Église, comme dans le monde, tout le monde est blessé. Il a besoin de vous comme aimant l'Église, malgré ses défauts. Il faut aimer l'Église. Le monde a besoin de votre parole, de votre présence, de votre compassion pour tous ceux qui sont peut-être au début d'un chemin douloureux, pour tous ceux qui ne savent pas que Dieu les aime, pour tous ceux qui ne savent pas que la plupart du temps, ils font les frais du diable, du diviseur, d'une parole qu'ils confondent avec la réalité, parce que ce que nous sommes, même lorsque nous parlons d'homosexualité, c'est toujours un mystère qui nous dépasse. L'amour est un mystère. La vie est un mystère. La mort est un mystère. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui nous invite alors à rentrer dans cette relation de confiance, de fils et de fille du Père. Merci.